Un balado Radio-Canada audio.
Aujourd'hui, le 29 juin, tout le monde les enviait, mais c'est malheureusement terminé pour les Bleus. Qui est donc le nouveau favori pour gagner l'Euro et un retour en Dante pour le CF Montréal?
Ici Assun Camara.
Ici Olivier Tremblay.
Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer.
Sur l'état de la surface d'affaire. Oh, le but! Oh, le but exceptionnel!
Magisterial Barcelona!
When the seagull follows the troll.
It's Shabalala!
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Tu as l'air beaucoup plus de bonne humeur que Assun Camara. Bonjour Assun.
Bonjour.
Nous sommes très contents de te voir ici aujourd'hui.
Ah, j'imagine, oui.
Hey, j'ai jamais été content de le voir de même dans ma vie.
Écoute, quand même, en commençant, j'aimerais rendre hommage à notre producteur Jacques-Alexis Bernardin qui n'est pas là aujourd'hui. Jacques-Alexis le Suisse. Qui a toujours cru à son équipe, même quand on se moquait de lui, surtout à Sun, en fait. Et Jacques-Alexis est absent aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, mystère. Est-ce que ça fait trop longtemps qu'il célèbre? Il essaie de s'en remettre.
Il fête encore leur victoire. Donc,
On rend hommage. Aujourd'hui, c'est Simon Crémer qui est là, le Belge, qui est beaucoup plus de bonne humeur qu'Assun, je dois
plus
dire.
Investi dans son tournoi, on dirait. Là.
Alors, il faut revenir sur ce match entre la France et la Suisse qui s'est terminé comme ça.
Can Mbappe deliver? He's denied by Sommer. He wants reassurance that the save is allowed, and it is. The officials are happy, and Switzerland have done it against all the odds.
On s'excuse, Assun. Non, mais on t'agace beaucoup, mais n'empêche que. Qu'on y croyait aussi. Moi-même, j'avais dit que la France allait emporter. Même Olivier avait reconnu il y a quelques semaines, il a dit, bon, félicitations à Sun, tu seras champion d'Europe. Mais en même temps, on avait dit, est-ce qu'ils sont en train de se tirer dans le pied avec ces unes de journaux, ils nous envient, nous sommes les meilleurs. Comment tu vas, Sun? Parce que tu vas me dire, ça reste la meilleure équipe, mais je veux dire, je m'excuse, mais c'est inexcusable de s'incliner comme ça en ronde des 16.
Bah, une équipe, c'est pas forcément le potentiel ou le talent. Et on l'a bien vu face à la Suisse. C'est le commitment, excusez-moi de mon anglicisme. C'est le fait de jouer en groupe, de jouer en équipe, de croire ensemble qu'on peut faire quelque chose. Et forcément, au vu de la physionomie du match, mais aussi des signes avant-coureurs, je pense aux différentes conférences de presse des joueurs avant, Kylian Mbappé qui se plaint, le petit acte de Giroud qui ne reçoit pas de ballon, Pogba qui a la limite de se battre avec Rabiot juste avant les prolongations, les parents qui se battent en tribune aussi, je veux dire.
Oh, je suis tellement reconnaissant en ce moment.
Ouais, il y a tellement de choses qui montrent justement que ça allait pas et que physiquement déjà on le sentait que c'était compliqué et puis ils voulaient pas faire quelque chose ensemble cette fois-ci contrairement à 2018. Donc le résultat est mérité pour la Suisse, vraiment.
On en a parlé à quel point il y avait du talent dans cette équipe-là, des super vedettes. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas ça peut-être qui a fait défaut, dans le sens où peut-être les individualités ont pris le dessus sur le collectif?
C'est un grand assemblage d'individus, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'avant le tournoi, même avec les unes de journaux puis les potentiels tirs dans le pied, je pense qu'on a tous cru quand même que ça finirait par donner quelque chose d'un point de vue collectif, que ça allait... que la sauce allait réellement prendre. On en a parlé de Karim Benzema, comment il arrivait pour un peu sublimer cette équipe-là, l'amener à un autre niveau qu'à la précédente Coupe du Monde. Mais ça n'a juste jamais fonctionné. Puis oui, il y a des facteurs un peu... quand on regarde que tu es obligé de jouer Adrien Rabiot comme latéral gauche à cause des circonstances, oui, il y a des...
Mais qu'est-ce qui a fait défaut, là? Parce que moi, je trouve que ce qui est encore pire, c'est de perdre une avance de 3 à 1.
On s'est cru trop beau à ce moment-là, je pense. Mais en même temps, j'ai de la misère à acheter la... Je suis un peu ambivalent. J'ai de la misère, puis non, à acheter la pierre, parce qu'à 3-1, peut-être que les Français, justement, là, on se rend compte. C'est souvent ça dans ce tournoi-là, on dirait. Les Français qui, comme, jouent un peu sur le pilote automatique, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève, puis là, bang, ça fonctionne. Mm. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Tout d'un coup, ça devient 3-1 à l'espace de quelques secondes. Et peut-être qu'à ce moment-là, les Français ont cru, OK, c'est beau, le travail est terminé. Puis j'en suis coupable aussi. Tu sais, j'avais même pas le feel de la game tant que ça. Puis j'ai tout de suite envoyé un tweet à justement Jacques-Alexis pour lui dire, OK, là, c'est-tu terminé, là, 3-1? mais tu sais, moi, j'ai cru que c'était terminé. Fait que les Français qui sentaient le match, qui étaient dedans, qui étaient sur le terrain, puis qui ont pu sentir peut-être les Suisses faiblir, peut-être que, justement, ils sont crus trop beaux. Par contre, c'est ta responsabilité en tant que joueur professionnel de ne pas tomber dans ce piège-là. Et les Français ont été coupables de ça comme ils l'ont déjà été par le passé, malheureusement.
Ben oui.
Mais dans le fond, si je me fie à ce que vous dites, là, Hassoun, est-ce que c'est pas un peu un problème d'égo dans cette équipe-là?
Ça l'est beaucoup, beaucoup même, franchement. Il n'y a que ça. Et c'est ce qui ressort avec du recul sur ce parcours-là. Je veux dire, les interventions en conférence de presse, Mbappé qui demande les pénaltys. Il ne les a pas, donc on le console avec des coups francs qu'il n'a jamais tirés de sa vie et pour lesquels il ne s'approche jamais au Paris Saint-Germain. De l'autre côté, tu vois un Pogba qui sort complètement du match après une altercation avec Rabiot sur le dernier but. Un Coman qui refuse et qui dit non au sélectionneur en disant non, je ne sortirai pas du terrain comme un tournoi d'interquartier. Je veux dire, c'est ahurissant. Et sans parler des mamans, de la maman Rabiot qui se chicane avec la maman Pogba et le papa Mbappé. Je veux dire, c'est du jamais vu. Et sincèrement, je pense que c'est le reflet de ce qui se passait dans le groupe un petit peu. Et je pense qu'ils n'avaient pas envie de faire quelque chose ensemble pour ce tournoi-là, en tout cas.
Puis c'est fort d'être tombé dans ce gros piège-là avec l'avertissement qui avait été servi quelques heures avant entre l'Espagne et la Croatie.
Exactement.
L'Espagne qui prend l'avance 3-1, se fait prendre en fin. L'avertissement était là. C'est comme s'il s'était dit, oh, nous autres, ça ne peut pas nous arriver.
Ouais. Puis, mais en fait, on se demande si Didier Deschamps a peut-être échappé un petit peu en essayant peut-être de faire plaisir à tout le monde. Évidemment, c'est un peu ironique parce que dans son point de presse, après le match, il a parlé d'un groupe solide, uni, qui regardait dans la même direction. Puis, honnêtement, force est d'admettre que c'était pas vrai. On lui a parlé évidemment de Mbappé qui a raté ce penalty qui a donné la victoire à la Suisse. On peut l'écouter.
Évidemment, Kylian assume sa responsabilité, il se sent coupable, mais il n'a pas à l'être. Voilà, il pouvait marquer et nous qualifier aussi. Ceux qui vont tirer, c'est forcément une responsabilité. Donc, il n'y a pas le moindre souci là-dessus. J'ai un groupe uni et solidaire. Il a toujours été. Et ce soir, même si c'est un moment de déception, on restera unis et solidaires de toute façon.
Bon, c'est ça, il parle d'unité, j'y crois pas du tout. Mbappé, Kylian Mbappé, écoutez, c'est pas le premier à rater un penalty dans un grand moment. Il est allé sur les réseaux sociaux après pour dire qu'il était très triste, que c'est difficile de tourner la page. Je suis désolé pour ce penalty, donc bravo, il s'est excusé. Mais moi, je suis un peu amère face à Mbappé parce qu'on en a parlé dans les dernières semaines, comment c'est un joueur exceptionnel, probablement le meilleur milieu de terrain depuis quoi? Une décennie, on l'a beaucoup vanté, mais on l'a vanté aussi l'homme à l'extérieur du terrain. Puis j'ai été déçue de son attitude. Je l'ai trouvé tête enflée, puis je pensais pas qu'il était comme ça. Puis ça me rappelait à la demi-finale de la Coupe du monde en 2018 contre la Belgique. Je pense que c'était à la 92e minute, c'était 1-0 pour la France. Puis le ballon sort près du coup de pied de coin. Puis les joueurs de la Belgique tentent de reprendre le ballon. Puis Mbappé...
Le garde.
Mais tu sais, je comprends qu'il peut faire partie du jeu, mais il a poussé loin. Tu sais, il était fatigant. Il faisait semblant de tomber sur le ballon. Finalement, je me dis, hier, deux jours, karma. Est-ce qu'il n'a pas couru un peu à sa perte? Et j'ai l'impression que son étoile vient de pâlir un peu. Pas parce qu'il a raté le penalty, mais à cause de l'ensemble de son œuvre à cet Euro-là.
C'est la réaction qui va faire foi de tout, hein? C'est la réaction qui va faire foi de tout.
Et toi, tu perçois ça comment, son message vis-à-vis son l'attitude qu'il a eue au... Puis c'est pas le seul, évidemment, à avoir une attitude déplorable. Là.
Non, c'est ça. Il est loin d'être le seul. Puis je veux dire, Corrigez-moi là, si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde dans le camp français non plus qui est allé voir Mbappé après ce moment-là pour aller le réconforter, lui dire non, c'est gaz correct. Au moins, il est allé en tirer un penalty. Puis on peut dire la même chose d'un Marcus Thuram qui n'a pas le même pédigré en équipe de France. Il est allé lui aussi, puis Kimpembe qui se lève aussi, qui est un défenseur central, puis qui va en mettre un bon penalty. Je pense qu'on est dur un peu honnêtement envers Mbappé. Je pense que c'est important de dire les choses comme elles le sont. Puis oui, tu marques un bon point avec peut-être son attitude, peut-être qu'il y a des trucs à corriger. Mais honnêtement, on en fait le bouc émissaire de cette défaite-là. Puis je pense que c'est vraiment le dernier problème que Didier Deschamps ou son successeur, je sais pas, tu sais, je vais pas spéculer, mais à régler. Je veux dire, si t'as un Kylian Mbappé, non, il s'est pas distingué dans ce tournoi-là. Il a pas été génial. Mais crime, c'est quand même un gros élément sur lequel bâtir l'équipe de France pour les prochaines années, là.
Le fait de le placer sur le peloton d'exécution, c'est ridicule. C'est pas Mbappé qui a fait perdre l'équipe de France concrètement.
Non, mais c'est plus que je trouve, comment tu avais parlé de lui souvent.
Non, mais c'est ça. C'est justement c'est ce qui ne va pas m'empêcher justement d'avoir une critique objective justement sur ce qu'il a fait et le statut dans lequel lui-même s'est placé, j'ai envie de dire. Beaucoup de déclarations, le fait d'assumer ses responsabilités, de vouloir des responsabilités aussi, il les avait. Et c'est vrai que ça n'empêche pas justement de regarder concrètement et de se dire qu'il n'a pas été à la hauteur des espérances qu'il a lui-même données. Je veux dire, il n'a pas marqué. Ça a été compliqué dans le jeu, même s'il a réussi à être décisif sur des actions concrètes.
C'est ça, au-delà du penalty, je pense que c'est plus les occasions ratées pendant tout le reste du tournoi qu'on devrait retenir là, pour Mbappé. Là.
Exactement, mais pas seulement, je veux dire, les déclarations. Je veux dire, l'histoire de Giroud, quand tu reviens en conférence de presse deux jours avant un match décisif, parce que tu as forcé la fédération à te laisser l'opportunité d'aller parler. Je veux dire, tu es à deux jours du match, là. Ton histoire, on l'aime bien, mais il y a un groupe derrière. Et on sent que vraiment, la fédération a cédé face aux caprices d'Mbappé. Et pas seulement ça. Donc, les gens lui reprochent ça, lui reprochent son attitude, lui reproche beaucoup sa neymarisation, entre guillemets. Le fait d'essayer de devenir un bad boy, tu sais, ça ne plaît pas. C'est pas ce qu'on aime chez lui. Et forcément, je veux dire, ça va être compliqué pour lui de se relever. Je l'espère. Il a intellectuellement, il est chargé pour, mais ça va être difficile. Tu sais, Trezeguet, on se souvient de lui pour sa carrière, mais on se souvient aussi de lui, malheureusement aussi, pour le penalty loupé en finale de Coupe du Monde. Et Mbappé doit rentrer dans cette lignée-là aujourd'hui, jeune, mais à lui justement de rebondir et de montrer qu'il peut évoluer aussi.
Tous les espoirs ne sont pas perdus à Son, Gareth Southgate. En 1996, ça a été le seul à rater le penalty contre l'Allemagne en demi-finale. Mm. Le seul. Puis là, il vient de battre l'Allemagne comme sélectionneur. Fait qu'en 2044, Mbappé va battre la Suisse.
Comme sélectionneur,
ça va être écœurant.
Tout étant tout. Mais justement, quand même, il faut parler de la Suisse parce que si on critique la France, il faut quand même donner le crédit à la Suisse qui n'a pas abandonné. On va écouter justement le capitaine Xhaka.
Well, the feeling are amazing. I think everyone who is from Switzerland can be very, very proud today. We write history today, we make history today, and to come back like this, to show this spirit, to show this character, I'm very proud to be part of this team.
On a écrit une page d'histoire, il a parlé de caractère. Puis si on a dit que la France a abandonné quand il restait... a pensé qu'il avait déjà gagné quand il restait une dizaine de minutes... Mais d'autre côté, la Suisse a jamais arrêté d'y croire. Puis ça, je veux dire, c'était quand même une performance impressionnante.
C'était spectaculaire. Puis tu vois encore une de ces équipes. Il y a peut-être plus d'individualité que dans une équipe de Danemark, par exemple. Puis je suis sûr qu'on pourra glisser un mot sur le Danemark. Mais la Suisse, justement, un Xhaka comme ça qui... T'as vu qu'il a pris le match sur son dos aussi, là. Au milieu du terrain, il était...
C'est le même Xhaka qu'Arsenal, lui?
C'est fou comment les joueurs, incroyable.
Ça n'a pas l'air d'être le même gars, mais il a pris cette équipe-là sur les épaules. On sent qu'il a voulu justement galvaniser les troupes. Ils ont réussi leur pari. Puis honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à perdre, les Suisses non plus. Puis à 3-1, au lieu de s'affaisser, justement, ils se sont dit, regardez les gars, on va continuer à jouer au foot, puis on verra bien qu'est-ce qui va arriver. On s'est projeté vers l'avant, on a posé des questions de la défense française. Puis la gestion de match a été franchement pas mal. On a fait des changements qui ont été payants aussi. Je parlerai même pas de Fabian Schär dans mm-hmm. les périodes de prolongation, légende de Newcastle. Mais non, franchement, les Suisses peuvent être fiers de leur équipe. Je sais pas pour la suite, ça va être difficile, mais honnêtement, faut profiter de ce grand moment de l'histoire du soccer suisse.
Puis oui, il faut être objectif. Ils l'ont pas volé leur victoire.
Non, absolument.
Sincèrement,
pas.
Avec le recul, la première mi-temps, elle est pour eux. Ils sont extraordinaires. Tactiquement parlant, je veux dire, avec leur 3-5-2, ils ont mis l'équipe de France en grande difficulté. L'équipe de France ne savait plus comment se placer. C'était difficile. Je voyais Varane et Pavard qui étaient complètement perdus face au système tactique suisse. Donc ça a été compliqué. Et globalement, l'équipe de France a joué 20 minutes. Ils ont eu 20 minutes en deuxième période sur des éclairs de génie de Karim Benzema et le but de Pogba. Mais après ça, je veux dire, la Suisse a dominé ce match de bout en bout. Donc, ils l'ont mérité. Ça a été un super match. Hormis ça, ils m'ont offert vraiment de belles émotions. J'ai été content de voir ce qu'ils étaient capables de proposer. Et comme l'a dit Chaka, c'est au niveau de la détermination de jouer ensemble et d'y croire jusqu'au bout. Et moi, ça me... Ouais, pour le coup, ça, j'ai vraiment adoré leur prestation et il n'y a qu'à leur dire bravo.
Ça prenait du culot, tu viens de le mentionner, justement, le côté de Varane puis de Pavard. Je veux dire, en théorie, c'était le côté fort de la défense française dans ce match-là. Tu avais Rabiot de l'autre côté qui n'a jamais joué à ce poste-là. Ouais. Puis ils ont le culot d'aller attaquer ce côté-là de cette manière-là.
C'était un massacre. C'était un massacre. Côté droit, c'était un massacre.
Mais on s'entend qu'on est servi jusqu'ici, là, les matchs en huitième de finale, des matchs serrés. Même les matchs qu'on attendait plus tranquilles, finalement, ont été exceptionnels. La majorité se sont rendus en prolongation ou en tir de barrage. Évidemment, il faut glisser un mot sur la Belgique pour faire plaisir aux réalisateurs.
on veut que le balado sorte aujourd'hui quand même.
Oui, mais quand même, ils ont battu Ronaldo et le Portugal. C'était pas le meilleur match de la Belgique. Honnêtement, j'ai eu peur qu'il l'échappe en fin de match, mais ça reste que c'est une victoire. Et là, quand on voit que l'Allemagne est éliminée, que la France est éliminée, est-ce que le champ est en train de s'ouvrir pour le champ libre pour la Belgique?
Le groupe de la mort est mort. Donc, il n'y a plus personne de ce groupe-là. Donc, bien sûr, la Belgique, avec les ambitions affichées, la volonté de se venger un petit peu de ce qu'ils ont subi en 2018. Bien entendu, je pense que c'est un candidat sérieux.
Mais comment tu as trouvé ce match-là, justement, entre la Belgique et le Portugal? Est-ce que tu es un peu déçu de la performance de Ronaldo et compagnie?
Non, je trouve qu'ils n'ont pas à rougir, justement, de la performance qu'ils ont donnée. Au contraire, je trouve même qu'ils méritaient de passer. Mm-hmm. Concrètement, par rapport à la performance, ils ont poussé, ils ont tout donné dans les dernières minutes. Ils se sont procuré beaucoup d'occasions. Et la Belgique, paradoxalement, a joué un peu comme la France en 2018.
Oh,
qui les critiquaient juste avant sur le style de jeu, bah ils ont mis le bus et ils ont résisté pour passer. Et ça demande ça des fois au haut niveau, c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Donc, la Belgique, candidat sérieux aujourd'hui, ils ont sorti le Portugal de cette façon-là. Ils les ont sortis quand même, donc il va falloir compter sur eux, c'est sûr.
Petit frère hasard.
Ben oui, c'est ça, mais tu parlais justement des matchs du tour précédent qui ont été pour la plupart très, très bons. Pour la suite, pour ce match-là, Belgique-Italie qui s'en vient.
Parlons-en.
Là, je sais pas. Non,
c'est ça.
Je me demande si je vais pas l'enregistrer puis voir si c'était si bon que ça. Parce que ça va être deux équipes qui ont fait face à... Je sais pas, je pense il y a des raisons d'avoir des doutes de chaque côté. L'Italie qui a pris son premier but contre l'Autriche, c'était vraiment pas une performance si éclatante que ça de la part de mon équipe italienne.
Oui, c'est parce que tu as prédit, on rappelle, que l'Italie serait sacrée championne du tournoi.
Oui, puis je pense qu'ils peuvent maîtriser les Belges, mais c'est ça. J'ai peur un peu pour le spectacle, puis je me demande je me pose vraiment des questions sur la physionomie de ce match-là. Parce que voilà, l'Italie, j'ai exposé un petit peu mon raisonnement, puis la Belgique, on vient d'en parler. Ça n'aurait pas été un vol que le Portugal fasse quelque chose de ce match-là non plus. Je pense qu'ils n'ont pas donné la performance qu'ils auraient souhaité. Puis moi, je ne suis pas rassuré du tout pour la suite, là, pour la Belgique, là, au contraire.
Non, j'avoue que contre l'Italie, malgré mes affinités pour l'équipe de la Belgique, ben moi aussi, j'ai peur. Simon, on a peur. Si on regarde l'Ukraine contre l'Angleterre, là, on va regarder un peu les matchs de quart de finale. Ukraine contre l'Angleterre. Quelle fin de match pour l'Ukraine contre la Suède et l'Angleterre? Aussi, belle performance.
It's coming home.
It's coming home. Mais j'ai envie de dire comme ça facilement, ah, l'Angleterre va aller chercher ce match-là, mais en même temps...
Ça va être tannant.
Ça va être fatigant. J'ai l'impression que les Ukrainiens vont jamais, jamais, jamais lâcher.
Non, ils lâcheront pas. Et c'est ce qui les a menés justement en quart de finale. C'est... Je veux dire, c'est historique pour eux. C'est la première fois qu'ils se rendent à ce niveau de la compétition. Donc forcément, c'est... quand tu arrives de cette façon-là, tu n'as absolument rien à perdre. Au contraire, tu as limite validé ton tournoi. Vraiment, vraiment, je pense qu'on va assister à de belles rencontres là encore, même si j'imagine qu'on va donner l'Ukraine un petit peu outsider. Mais aujourd'hui, quart de finale, il peut tout se passer. Et les autres matchs l'ont prouvé, la Suisse l'a prouvé. Je veux dire, moi, je suis à la place de l'Ukraine, je vois ce que la Suisse a pu faire contre la France. J'ai envie d'aller chercher les choses et de me dire que c'est possible. Donc, ça va être des matchs super intéressants. On a des matchs extraordinaires. Sincèrement, cet Euro-là, moi, j'adore. Au niveau du suspense, du jeu, il y a tout qui est réuni. Et je pense qu'on va assister à de très beaux matchs d'ici la fin.
Moi, j'ai déjà hâte à une heure avant le match. Je trouve ça intéressant. Southgate contre Shevchenko. Southgate, honnêtement, j'ai l'impression qu'il jouait beaucoup sur le match contre l'Allemagne. Mais jusqu'ici, honnêtement, il a été un sans faute. Je suis très impressionné par la gestion du tournoi qu'a fait Southgate jusqu'à maintenant. Contre Shevchenko, relativement jeune encore dans le métier, mais c'est Shevchenko, tu sais. Comme joueur, il nous a habitués à des moments particuliers.
Extraordinaire.
Est-ce qu'il y a d'autres choses dans sa manche, des cartes à jouer? J'ai déjà hâte de voir la composition des deux équipes.
Moi, ma plus belle surprise, j'ai envie de dire, je pourrais dire ma confirmation, c'est Sterling, qui a été sensationnel, en fait, pour l'Angleterre. Finalement, une chance qu'Harry Kane a compté hier, parce que sinon, c'était seulement Sterling qui avait marqué depuis le début de ce tournoi-là.
Daily Mail n'aura pas le choix qu'à de l'aimer, là.
Oui, finalement. Mais on voit que c'est un joueur qui est capable de se présenter dans les grandes occasions. Oli, République tchèque, Danemark.
Ouais.
Bon, Danemark, je veux pas, c'est un peu l'équipe Cendrillon jusqu'ici. Puis la République tchèque, ben je sais pas, mais je pense pas qu'on l'avait imaginé encore de finale.
Seigneur, non.
Très surprenante. Donc là, d'emblée, j'ai envie de vous dire que le Danemark va aller chercher ce match-là, mais en même temps, on les attendait pas là. Tout peut arriver.
Ah si, moi, c'est mon équipe Cendrillon depuis le début.
Le Danemark, pardon. C'est ça, ouais.
Le Danemark, et je pense qu'ils ont... à mes yeux, ils vont passer parce qu'ils ont comme j'ai dit, l'expérience. Ils ont des joueurs de talent aussi. Je pense à Braithwaite ou à d'autres. Mais
tu parlais aussi de détermination, si on veut en parler, cette équipe-là.
Mais c'est ça. Avec ce qui s'est passé aussi avec Eriksen, je vais dire, s'il y a un moment où tu as envie de vivre des expériences à fond et de dire que tu as la chance d'être sur un tournoi comme ça, c'est là, quoi. Je veux dire, ils ont tout. Ils ont un groupe. Ils ont de la conviction. Ils ont de la détermination. Et je pense vraiment qu'ils ont... ils vont passer ce stade, à mon avis.
Ouais, la tempête est passée. C'était difficile de se relever de ce début de tournoi-là, mais je pense qu'ils ont trouvé une formule gagnante. Puis en plus, tu sais, un peu, peu importe où est-ce qu'ils sont, je pense qu'ils vont avoir l'appui de beaucoup de gens. C'est devenu la deuxième équipe favorite d'un peu tout le monde.
Ouais.
Fait qu'ils ont, ça en plus qui les pousse. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas en plus. Puis là, comme on le présumait, ils sont tombés dans une moitié vraiment, vraiment favorable du tableau. Puis là, en plus, c'est plus favorable encore que ce qu'on imaginait. Donc, qui sait? Moi, je suis là pour Danemark-Angleterre, moi.
Ta prédiction surprise est en train de te sauver parce que toutes tes autres prédictions sont mortes, là. Puis on s'était moqué de toi quand t'avais dit que le Danemark serait probablement l'équipe surprise. Ils nous avaient parlé de 92. On était comme, qu'est-ce que tu dis là? Puis finalement,
ils sont là.
Ils sont là. Et le dernier quart de finale, t'en as parlé un peu, Oli. Espagne contre Suisse. On s'excuse, Jacques-Alexis. J'espère que t'as bien célébré, mais je crois que ça va se terminer ici.
L'attaque espagnole débloque.
Ouais. Enfin. Finalement, ils se sont réveillés, c'est
ça. Puis c'est ça. Ils créaient du jeu bien avant qu'ils se mettent à mettre les buts au fond. C'est juste que là, ça commence à débloquer. Puis moi, ce qui m'impressionne de cette équipe, particulièrement dans ce premier match éliminatoire-là, c'est comment on trouve toutes sortes de moyens de créer du danger.
Pas de la Suisse.
Non, absolument pas. On a assez parlé de la Suisse, là, ça va faire. Non, mais les Espagnols, ils créent des situations dangereuses de pas mal, j'ai le goût de dire, pas mal plus de façons qu'auparavant, ils sont encore très en maîtrise et tout ça, mais ça, ça centre beaucoup. On crée du danger sur phase arrêtée aussi, à la relance. Je trouve ça intéressant comment on a peut-être pitché Luis Enrique en dessous de l'autobus un peu la semaine passée, mais je pense que là, jusqu'à maintenant, il faut lui donner raison. Il a créé quelque chose avec cette équipe-là qui est en train de débloquer. Morata qui finit par mettre son deuxième but puis qui a l'air d'être un peu plus en confiance qu'au début du tournoi. Ça va être difficile d'arrêter les Espagnols, j'ai l'impression.
Là, on avait fait des prédictions en début de tournoi. Oli, tu avais prédit que l'Italie gagnerait. Est-ce que tu changes ton fusil d'épaule ou tu maintiens...
Non, je vais l'assumer jusqu'au bout. Okay. Je pense qu'il y a, comme je disais, je m'attends pas à un grand match contre la Belgique, mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour faire leur résultat. On va revenir aux sources un peu, là, un bon vieux résultat à l'italienne, là, quelque chose de bien géré avec un 1-0, mettons.
Mais après... J'avais envie de dire un résultat à la Grèce.
Franchement. Mais ils ne sont même pas là. Les oreilles vont leur scier. Après ça, ça va être... C'est ça. Je me méfie de l'Espagne. Ça va être vraiment plus compliqué. Ça va être très intéressant si ça se concrétise. Mais non, je vais l'assumer jusqu'au bout. Ça va être l'Italie tiens, contre l'Angleterre en finale.
Hassoun, réfléchis. Parce que Hassoun, c'est terminé pour tes prédictions. Donc là, si tu dois te trouver une autre équipe, qui va remporter cet Euro? Il faut que tu te mouilles.
Ça a l'air d'y faire mal.
Oui, c'est ça. Il n'est pas capable.
C'est douloureux en ce moment. Pauvre Hassoun.
Ah, la France.
On parle à l'analyste là, et non au français.
Le vainqueur sera l'Angleterre.
Oh, OK.
Le vainqueur sera l'Angleterre. Ils jouent à domicile. Ils sont portés par... par du talent aussi offensif. Ils ont les remplaçants qui font la différence aussi. Ils ont un super coach. Je les vois en favoris aujourd'hui à ce stade. Je vois l'Angleterre remporter finalement.
Ils vont perdre. Il va falloir que tu trouves un autre favori
c'est
la semaine prochaine.
Exactement.
Puis là, qui
va être... un segment, ça.
Ouais, c'est ça. La prédiction de ça.
C'est ça.
Puis finalement, ton joueur du tournoi, ça va être qui? Parce que tu avais mis Mbappé partout. Excuse-moi, c'est très ironique. C'est très drôle.
Là.
On t'avait dit, ça va être qui le joueur le plus utile? Kylian Mbappé. Le meilleur buteur, Kylian Mbappé. Celui qui va surprendre.
Meilleur défenseur, Kylian Mbappé.
Sur lui.
Meilleur sélectionneur, Kylian Mbappé.
Choisis un autre.
J'y vais pour Sterling alors. Sterling qui marquera en finale et qui renversera toute la vapeur et les critiques qu'il y avait sur lui à ce début de tournoi. Et ce serait la belle histoire pour lui.
Même si j'ai peur, je vais y aller avec la Belgique de mon côté parce que j'avais dit aussi la France. Je vais y aller avec la Belgique même si... Non, mais honnêtement, je pense que c'est une prédiction plus de cœur parce que l'Italie me fait peur. Mais si la Belgique passe au travers de l'Italie, je pense définitivement que cette équipe peut aller jusqu'au bout. On dirait que Eden Hazard commence à retrouver la forme tranquillement, pas vite. Même si là, finalement, on parle plus de son petit frère.
Il va falloir que ce soit vite, justement. Ça s'en vient vite, le prochain
match. Non, ça s'en vient. Il y a juste à la donner à Lukaku, puis tout va bien aller. Hein? Il n'y a pas de problème. Donc, évidemment, les joueurs se reposent. Et les quarts de finale, c'est vendredi 2 juillet et samedi 3 juillet. Maintenant, parlons un petit peu de MLS. Après une pause d'environ un mois, c'était le retour à la compétition du CF Montréal. Deux matchs en à peu près une semaine, quelques jours en fait. Et encore en direct de Miami parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de venir jouer ici à Montréal. Deux matchs nuls, 0-0 contre DC United et 1-1 contre Nashville. Dans le match contre Nashville, c'est le premier but du préféré de Lee Kiki Struna, n'est-ce pas? Et aussi, ce qui a retenu...
J'apprécie les chauves.
Oui, c'est ça.
De manière générale.
Ah, Hassoun.
Franchement.
Ce qui a retenu l'attention quand même dans cette dernière semaine-là, c'est la blessure à Clément Diop qui finalement a terminé le match. Et là, on apprend qu'il probablement qu'il va rater plusieurs semaines au moins d'activité. Puis c'était le retour de James Pattemis qui quand même a bien fait. Mais je suis un peu ambivalente face à ces deux performances. On dirait que... finalement, ils réussissent à avoir un point, mais en termes de collectivité puis d'effort, on dirait que c'était pas à point. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Après une longue pause comme ça, c'est compréhensible dans une certaine mesure, mais je pense que, je m'attendais à un petit peu plus. Je vais revenir sur Diop, puisque tu en as parlé.
Ouais.
Je vais le dire, là, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai pas aimé qu'il s'acharne puis qu'il continue à... J'ai vraiment pas aimé ça. Je m'en fais pour... je veux dire, on est à une époque... C'est pas une blessure à la tête là, ou quoi que ce soit, mais tu sais, on est à une époque où on comprend les blessures puis on comprend les risques d'aggraver des blessures. J'ai vraiment pas aimé ça. Je veux dire, je comprends que tu veux finir le match puis tu veux être là pour tes coéquipiers, mais il y avait un plan B puis on n'a pas mis de plan B en application. Je comprends que c'est un plan B compliqué de faire d'amener un joueur de champ devant les buts, mais j'ai pas aimé ça puis je craignais que ça nuise à sa santé. Puis tant mieux si c'est juste quelques semaines, là, mais j'ai vraiment pas aimé ça.
Il y a vraiment deux perceptions. Il y a des gens comme toi qui disaient c'était bien niaiseux, il a peut-être aggravé sa blessure.
C'était niaiseux.
Non, mais t'as pas aimé ça, il a peut-être aggravé sa blessure pour avoir ça. Puis il y a les autres qui disaient lui, c'est un guerrier, il a bien fait, ça m'a donné des frissons, j'aimais ça. Mais en fait, c'est ça, Wilfried Nancy a dit, ça m'a donné des frissons. Toi, Hassoun, tu te situes où? Parce que les joueurs sur le terrain, ils ont eu l'air d'apprécier le geste de Diop qui se donnait pour l'équipe, mais en même temps...
Non, moi, j'ai pas apprécié, ça sert.
Pour un 0-0 contre DC, en plus.
C'est ça, pour lui déjà, parce que bien entendu, je remets pas en question sa volonté d'aider l'équipe et de sacrifier.
Absolument.
Puis, au contraire, moi, je connais la personne, donc je sais que c'est ce qu'il a voulu faire, mais je veux dire... Je sais pas si j'ai déjà vu ça, moi, dans le monde du foot. Vincent Détouche décrivait le match de l'autre côté. Je me disais, mais lui aussi, il disait, mais ça devenait ridicule d'une certaine façon en direct. Et j'étais presque d'accord parce que je me disais, mais attendez, il boite.
Il n'est pas capable de se tenir debout. Là, je veux dire.
Il se tient à peine debout. Mm. Il court, en même temps, il ne court pas. Il boite, en même temps, il ne boite pas. Il arrive à prendre le ballon quand même et puis plonger, je veux dire. Faut couper court, faut arrêter pour mettre un joueur au cage et puis le protéger lui aussi d'une aggravation de blessure. Aujourd'hui, là, je sais pas, il va être absent pour 6-8 semaines. Ça aurait peut-être été une blessure de 2 semaines. Je veux dire, ce que tu as gagné, le point que tu as gagné, tu l'aurais peut-être gagné avec un autre joueur au cage, sûrement même, je pense. Mais tu perds aujourd'hui là, sur la durée d'indisponibilité. Mmh. C'est là que tu payes justement ces 5 minutes laissées. Donc moi, j'ai pas apprécié. Sincèrement, j'ai pas apprécié. J'aurais préféré qu'il sorte. On le protège aussi.
Mais ce que tu dis, il risque d'aggraver sa blessure. Mais comme tu as dit, entrée de jeu aussi, ben là, il a l'air d'un super-héros parce qu'il plonge quand même. Mais en même temps, il n'était pas en pleine possession de ses moyens. S'il avait fallu qu'il y ait une contre-attaque rapide, puis finalement, il laisse passer un but, est-ce que tu n'es pas mieux? Puis t'as peut-être coûté finalement le match de ton équipe. T'es peut-être mieux d'avoir un joueur de champ qui vient prendre la place et qui sursaut des jambes. Donc,
c'était ce que tout le monde craignait, en fond.
Donc, James Pantemis qui a pris le relais lors du dernier match. Bon, c'est sûr que Wilfried Nancy parle des fois de ses relances, qu'il y a encore des trucs à améliorer. Mais comment avez-vous trouvé son effort, sa performance?
J'ai trouvé que ça s'était bien passé dans l'ensemble. Il a réussi plusieurs bons arrêts, puis c'était des arrêts souvent spectaculaires. Je me souviens, en 2012, on reprochait à Donovan Ricketts de faire des arrêts plus spectaculaires qui étaient nécessaires, puis on aimait avoir la stabilité ensuite d'un Troy Perkins, mais je pense que James Pantemis a trouvé un bon équilibre entre les deux, parce que pendant tout le match, on n'a jamais... Oui, il y a eu des moments de flottement, mais on a quand même senti une certaine maîtrise du placement derrière. Fait que pour ça, je m'inquiète. Puis, c'est peut-être un mal pour un bien aussi que Clément Diop soit absent, parce qu'on a aussi, il ne faut pas l'oublier, il est comme un figurant là-dedans, mais Sébastien Brezza qui est arrivé d'Italie, puis on ne l'avait pas vu. Puis là, bon, au moins, ça lui donne une occasion d'être sur le banc puis d'être plus impliqué. Donc, ça peut être bon aussi pour le groupe. Mais voilà, c'est... Puis en même temps, on le sait aussi avec James Pantemis, c'est pas la première fois qu'on le voit devant la cage du CF Montréal. Il avait bien fait aussi quand il avait dû jouer quelques matchs. Ça augure bien pour la suite derrière, du moins, mais je pense que les questions en ce moment sont davantage devant parce qu'on crée vraiment pas grand-chose.
Non, c'est en attaque. On a de la misère à créer de l'offensive. C'est quoi votre déception de ce côté-là ou c'est quoi la problématique qui fait en sorte... La réalité, c'est que l'impact... Oh, je l'ai dit!
50 sous.
La CF Montréal n'arrive pas à marquer de but.
Oui, marquer de but, mais encore plus que ça, avoir une animation offensive intéressante, je veux dire, parce que les buts, c'est la conclusion justement de la façon dont on joue. Et je trouve que on n'arrive pas à se trouver, à créer des décalages, à jouer de façon plus libre offensivement aussi. Et forcément, ça pèse sur les attaquants, ça, qui eux aussi ne sont pas à la hauteur justement des ambitions affichées. Je pense à Kyoto, bien entendu, qui offensivement est inexistant en ce moment. Ouais. Et puis
on pourrait parler du but de Nashville avec Kyoto aussi.
Ouais, exactement. Tu vois, donc c'est tout ça qui fait que il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail. Je trouve que ils sont à peut-être deux niveaux en dessous de ce qu'ils voudraient faire aujourd'hui, je pense. Et à eux d'essayer de rectifier le tir. Wilfried Nancy, ça va être un défi pour lui parce que, je veux dire, ça peut aller vite, hein, t'sais, dans les deux sens. Si tu arrives à travailler comme il faut et à remonter au classement, c'est bien. Mais tu as deux doigts aussi de t'enliser dans le bas du classement. Et là, pour ressortir, là, c'est compliqué.
Ouais, puis c'est beau les matchs nuls. On va chercher un point, mais il va falloir, comme tu dis, Assun, qu'on trouve des solutions rapidement. Présentement, CF Montréal se retrouve 9e. Donc, à deux places... la 7e position, donnant accès aux séries. Mais c'est très serré. On s'entend que...
C'est pour ça que je
veux dire, avec 3 points, ils se retrouvent en 4e position. Mais comme tu dis, on ne peut pas se permettre d'échapper quelques matchs parce qu'on pourrait se retrouver exclu du portrait des séries.
Ouais. Puis on en parlait au début de la saison aussi de l'aspect délocalisation, d'être encore aux États-Unis, tout ça. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe.
Oui, ouais.
Ils sont vraiment à bout d'être là-bas.
Oui, c'est sûr.
Mais si, d'un point de vue politique, ça débloque, puis on spéculait là-dessus début de saison, peut-être que justement, ça va leur donner un petit regain d'énergie pour bien amorcer. On ne savait pas trop quelle phase de la saison. Là, est-ce qu'on peut parler de deuxième moitié? Je ne sais pas. On verra comment ça se passe au point de vue politique. Mais c'est peut-être le petit oomph de plus que ça leur prend pour justement créer un petit peu plus derrière. Devant, il n'y a pas beaucoup de prise d'initiative, j'ai l'impression, dans le jeu du CF Montréal. Peut-être que, justement, cette volonté-là qui manque, je comprends que ça commence à peser.
D'un côté, j'ai envie de dire, c'est une excuse, mais on sait que l'année passée, avec la bulle, Samuel Piette notamment, qui avait parlé qu'à la longue, quand tu n'es plus capable, que tu es loin de ta famille, parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont... évidemment revenus ici pendant la pause et qui ne sont pas retournés en Floride, mais c'est dur de faire abstraction de tout ce qui est à l'intérieur quand tu es sur le terrain. Donc, on va voir ce qui va se passer. Prochain match, c'est ce samedi, justement, contre l'Inter de Miami. Et le classement...
Ça va tellement bien.
C'est ça. Le classement est extrêmement serré. Donc, une défaite, une victoire, ça peut faire une très grosse différence. Et on va voir, Oli, comme tu as dit, est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce que le CF Montréal va pouvoir éventuellement évoluer au Stade Saputo, on leur souhaite. Je voudrais pas être celui qui gère ce dossier parce que c'est pas simple. Merci beaucoup, les gars.
Merci.
On se reparle la semaine prochaine pour une nouvelle prédiction d'Assun Camara.
Tellement
pour l'Euro.
Prédiction.
Tellement prédiction.
La France championne.
Donc, la semaine prochaine, la France championne. Finalement, ils reviennent la Suisse à abandonner puis ils ramènent la France.
De quoi?
Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.